L'Évangile de Luc, chapitre 5, verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Voilà une pêche miraculeuse vécue par Pierre, mais aussi Jacques et Jean. Il semble que, à tous les quatre, avec le frère de Pierre qui était André, ils avaient leur petite industrie, leur petit commerce. Donc ça fonctionnait, ils travaillaient ensemble. Nous sommes au début des 3 années du ministère de Jésus. Alors c'est pas facile à situer parce qu'on voit plusieurs rencontres entre Jésus et Simon-Pierre. On en trouve une dans Jean 1. Quand il lui dira « tu es Céphas, tu seras Pierre, etc. » Quand Jésus lui annonce qu'il deviendra, il semble qu'au départ, ils se soient vus plusieurs fois. D'abord, on pense qu'ils se connaissaient. Nous sommes en Galilée. Pierre était de Capernaum, si je ne me trompe pas. Jésus était de Nazareth. Mais tout ça, c'est des villages les uns à côté des autres. On est dans la même région, ils se connaissaient. Puis il semble qu'à un moment donné, Jésus eut plusieurs fois un contact avec eux. On sait qu'il s'est déjà passé des choses avant. Le premier miracle de Jésus a été fait à Cana, dans un village voisin. Il semble que la guérison de la belle-mère de Pierre ait été faite aussi avant. Donc il semble qu'à plusieurs fois Jésus les a rencontrés. Parfois ils le suivaient, mais la décision de le suivre de manière définitive a dû être prise à ce moment-là. Enfin voilà, en tous les cas, ce qui est évident, c'est que ce miracle a bouleversé Pierre. La guérison de sa belle-mère l'a moins bouleversé. Mais là, il a été bouleversé par cette pêche miraculeuse. Je donnerai 4 raisons qui expliquent pourquoi Pierre a été bouleversé par ce miracle. La première raison, c'est que ce miracle s'est produit sur un terrain qui était le sien. La pêche et la mer de Galilée, le lac de Tibériade, le lac de Génézareth, c'est le même lac, d'accord? C'est en Galilée, ou tout au moins le nord du lac est en Galilée. La pêche avait peu de secrets pour eux, surtout dans ce lac. La mer de Galilée, encore moins. Ils connaissaient par cœur ce lac. Pour bien le situer, il fait à peu près la longueur du lac d'Annecy. Ça donne un repère. La différence, c'est qu'il est plus large. Il fait à peu près entre 5 et 6 km de large au plus gros. Donc il est plus large, mais ça nous permet de situer un petit peu ce lac et cette mer sur laquelle ils ont vécu beaucoup d'expériences. Ils connaissaient ce lac, ils savaient que dans ce lac, on y pêche de nuit. Et c'est de nuit qu'on attrape les poissons. En pleine journée, il ne fallait même pas y penser. Ils le savaient. Ils connaissaient les recoins, ils savaient les endroits, ils savaient quand est-ce qu'on peut trouver les bancs de poissons, ça c'est sûr. Aussi, quand Jésus leur demande de jeter leur filet en pleine eau, Pierre, il a répondu, nous avons travaillé toute la nuit. Comme on connaît un petit peu Pierre, on imagine aussi ce qu'il a un petit peu pensé. Je brode un petit peu sur Pierre. Seigneur, toi, tu connais la charpente. Tu sais travailler le bois, mais la pêche, c'est notre domaine. Ce lac, on le connaît par cœur. Il aurait pu répondre de cette manière-là. Il aurait pu dire à Jésus, tu connais la loi, mais il le jettera quand même, et il aura bien fait de le jeter, puisque la pêche sera miraculeuse. Nous, quand on voit cette histoire, on se dit, Jésus a une parole de connaissance. C'est-à-dire qu'il a su que là, il y avait un banc de poissons qui passait. Elle a dit, pêchez. Mais Pierre, Jean et Jacques, ils ne vivent pas. Pour eux, c'est un miracle. C'était pas normal qu'il y ait des poissons qui passent à ce moment-là. C'est ce qui les a bouleversés. Il nous a dit qu'ils furent saisis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Pour eux, c'était un miracle. Pour nous, on y voit comme une parole de connaissance. Jésus a eu l'info. Un banc là, allez-y. Non, c'est plus que ça. Jésus a fait que les poissons soient venus à ce moment-là. Je dis bien, il connaissait ce lac. Il savait très bien qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas y en avoir. Et il y en aura pourtant. Ça me permet de dire en tous les cas qu'on a un Dieu qui peut nous étonner dans tous les domaines. Et même dans les domaines où vous êtes bon, où vous pensez ne pas avoir besoin d'aide, le Seigneur est capable de vous surprendre. Et je crois que c'est bien de se le rappeler, c'est bien de se le dire. Il n'y a pas un domaine où Jésus n'est pas compétent. J'ai travaillé plusieurs années dans un cabinet d'expertise comptable. Mais des fois, je me rappelle dans mon travail, je me disais, l'expert, c'est quand même toi. Combien de fois je devais rédiger des rapports. Mais des fois, à la fin, il fallait un peu de l'inspiration pour la fin et j'avais du mal. Et combien de fois le Seigneur m'a étonné, des fois m'a fait écrire des choses. Je me rappelle une fois le cadre, j'avais dit, vous croyez ça? Et puis il a appelé le comptable de la société et c'était ça, j'ai m'étais emporté dans mon élan. Hein. Mais le Seigneur m'aidait dans ce domaine et je crois que beaucoup ont pu voir la main du Seigneur dans des domaines où il est bon partout, le Seigneur. C'est un spécialiste dans tous les domaines et Pierre, il a pris là une leçon. D'ailleurs, c'est pas la seule fois qu'il va prendre une leçon sur ce lac. Hein. Ils vont en prendre des leçons sur ce lac. Hein. Jésus, un jour, leur a dit, allez, passez de l'autre côté. Ils vont monter et puis ça va être la panique. Un vent violent va se lever, ça va être la tempête. Et là, ils vont réveiller Jésus qui était... Enfin, il y a deux histoires, hein, je suis en train de les mélanger. Il y en a une où Jésus était dans la barque, il dormait, ils vont le réveiller. Et Jésus va se lever et menacer la mer. Il y avait peut-être quelque chose d'anormal dans cette tempête pour que Jésus menace la mer. Et puis, une autre fois où Jésus va... Ça sera la panique encore, et Jésus va marcher sur l'eau. Et Pierre va le rejoindre. Ils vont en prendre des leçons. Mais c'est bon de savoir que dans tous les domaines, on a un Dieu qui peut intervenir. Même dans les domaines où je suis bon, il est capable de me surprendre, de m'étonner. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce miracle l'a bouleversé parce que là, c'est lui qui bénéficie de ce miracle. Le premier miracle auquel ils ont assisté, normalement, c'est le miracle de Cana. L'eau a été changée en vin. Vin changé en l'eau, c'est un miracle aussi, mais c'est moins intéressant apparemment. Mais l'eau a été changée en vin. Et ils ont vu, ils y ont assisté. Alors ils en ont bénéficié un petit peu, mais enfin les grands bénéficiaires, c'est l'ordonnateur du repas et c'est les mariés ou la famille des mariés. Ça aurait été la catastrophe si au bout d'une journée ou deux, sur un mariage qui faisait une semaine, il n'y ait plus de vin. La guérison de la belle-mère... Bon, c'est la belle-mère qui en a bénéficié. Pierre, moi. Mais là, c'est lui qui en bénéficie. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ils étaient fatigués, découragés et probablement inquiets par rapport au jour prochain. Quand c'était la grosse pêche, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que c'est bon, on a de quoi manger pour plusieurs jours et même on peut vendre le surplus. Pour pouvoir sacher les choses. Quand la pêche était maigre, on va faire avec ce qu'on a. Mais quand il n'y avait rien, c'était comment on fait? Il n'y avait pas de système d'indemnité, il n'y avait rien de tout ça. Il fallait se débrouiller. Ça voulait dire peut-être que Eh ben, on va aller dormir et demain, on y retourne. Nous, cette nuit, on y retourne. C'était, on se met, et puis c'était pas une mince affaire, hein, parce que c'était donc quelque chose. Et ce miracle, surtout que Jésus leur a pas dit qu'il allait le faire, il les a surpris. Hein. Il leur dit, bah, avancez en pleine eau. Pourquoi? Vous voyez? Et quand ils vont voir cette pêche miraculeuse, ils vont découvrir la bonté de Dieu. Ce Dieu qui prend soin. Ce Dieu qui sait intervenir au bon moment. Ce Dieu qui peut nous étonner. Et des fois, il sait faire tomber la provision au bon moment. Il sait des fois faire arriver la somme d'argent quand justement la facture vient juste de tomber. Il est ce Dieu qui peut nous intervenir. Et la Bible nous dit que Jésus guérissait tous ceux qui en avaient besoin. Et ça, j'aime beaucoup cet aspect-là. Mais on a un Dieu qui sait toujours intervenir à temps. Alors des fois, c'est à la limite, hein, mais il n'est jamais en retard. Et c'est toujours intervenir au bon moment. J'aime beaucoup ce témoignage que j'ai lu. Hein, c'est Butler qui le met dans un de ses livres. Où un jour, il y avait une dame qui avait, on a l'époque où il n'y avait pas de frigo. Et il faisait très chaud au mois de juillet. Et la dame qui était chrétienne, elle est allée voir sa voisine. Elle fait, vous pourriez me donner de la glace. Et la voisine en avait un petit peu marre, elle lui demande la glace. Elle fait, votre Dieu est grand, il est puissant. Et bien, qui vous la donne la glace? Et elle est repartie. Triste. Elle dit, Seigneur, fais quelque chose, s'il te plaît. Interviens, j'ai besoin de la glace. Et le ciel a viré. Et ça s'est transformé en grêle. Mais des grelots, des vrais glaçons. Elle a récupéré le seau. Elle est allée voir la voisine. Voilà la glace. Elle est tombée. Le Seigneur avait pourvu, hein, de manière miraculeuse. Et en plus, elle avait sa glace. Le Seigneur est capable de faire des choses étonnantes. Le Seigneur est capable d'intervenir au bon moment. Et il est celui qui connaît nos besoins. Il ne répond pas à nos caprices, à nos envies, forcément, même si des fois il est capable là aussi de nous étonner. Mais il est celui qui répond aux besoins. Tu as besoin d'être guéri, crois au Seigneur Jésus. Il est celui qui peut poser sa main. Tu as besoin, tu es dans une impasse sur le plan financier, crois au Seigneur Jésus. Il est celui qui peut t'aider et te secourir. Il sait de quoi nous avons besoin et il est celui qui répond à nos besoins. La Bible le présente comme celui qui pourvoit à nos besoins. Ce miracle, il est grand aussi parce que il a bouleversé Pierre dans son état de cœur intérieur. Pierre dira, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Pourquoi il dit cela? Quand Jésus arrive, ils sont en train de réparer leur filet et de nettoyer leur filet. Fatigués, déçus de la nuit. Et voilà que Jésus arrive avec la foule derrière. Alors des fois, ils voient de loin, je dis, bon, là, j'imagine qu'ils ont la tête ailleurs. Et puis la foule se rapproche, Jésus est devant. Et Jésus monte dans la barque et dit, Pierre, avance un petit peu la barque. Et il va se mettre, je sais pas, à 4-5 mètres de l'eau pour pouvoir parler. Je me mets à la place de Pierre. Il avait peut-être envie d'autre chose. Il avait envie de finir de réparer ses filets et puis aller de se reposer. On repartait cette nuit. Il n'avait certainement pas la tête à ça. Et Jésus ne lui demande même pas son avis. Il monte dans la barque. Et Jésus commence à enseigner. À écouter Jésus, ça devait être passionnant, hein. Je ne sais pas combien de temps Jésus a parlé. Plus de 20 minutes, plus de 20, 25 minutes, peut-être une heure et demie, deux heures. On ne voyait pas le temps passer, mais je me mets quand même à la place d'un Pierre qui regardait ses filets qui n'étaient pas encore nettoyés de temps en temps. Il se ressaisissait, il écoutait Jésus, ça suscitait la foi. Et puis il regardait sa barque de temps en temps, il était dedans, il n'y avait pas un poisson. Ah, et vous savez, on a tous été des fois dans ce genre de situation. On écoute quelque chose d'intéressant, mais en même temps, les réalités nous ramènent. Le souci est là. Et qui va remplir ma barque? Et qui va nourrir va remplir l'assiette de mes enfants? Je me mets à la place de Pierre, même si c'est très intéressant ce que tu dis, Jésus. Tu as un beau discours, c'est formidable. Et qui va remplir? Qui va pourvoir à mes besoins? Et cette question, je ne pense pas que Pierre se laissait aller. Mais vous savez, c'est comme des fois les mouches. Hein, elles nous embêtent là. Ça revient un petit peu et je pense que ça devait revenir souvent. Dans la tête de Pierre et en voyant ses filets qui n'étaient pas nettoyés, le travail qui était là. Peut-être que Jésus disait des belles choses et ça le travaillait. Et puis, Jésus termine son enseignement. Il a parlé. Et voilà qu'au lieu de dire « ramène-moi sur le bord », Jésus dit « avance en pleine eau ». Je ne sais pas là comment Pierre y réagit à un moment. Et Jésus dit « avance en pleine eau et je te le filet ». Alors, comment Pierre le ressent? Alors, vous avez tous entendu, et Pierre dira « Seigneur, on a péché toute la nuit, sur ta parole, jetterai le filet ». Et on a toujours entendu, et moi-même je le dis souvent, c'est « sur ta parole, ça exprime la foi ». Mais si Pierre l'avait dit, et je pense qu'un petit peu, il y a un peu de ça, « sur ta parole et pas la mienne ». C'est pas le même ton, hein. Sur ta parole et pas la mienne, je vais jeter le filet. Et je crois qu'il est, il veut, d'accord, sur ta parole, je vais le faire. Mais c'est pas moi qui l'aurais fait, Seigneur, à ce moment-là. Il me semble qu'il y a quand même quelque chose comme ça. Et Pierre, il va le jeter son filet. Sur ta parole, Seigneur. Je te dis bien, c'est pas moi, c'est toi. S'il y a raté, je pousse un peu la réflexion, mais c'est un peu ça quand même. S'il n'y a rien, c'est-à-dire c'est toi qui l'auras dit. Hein, parce que je vais le dire aux autres, ils vont me prendre pourquoi. Alors il jette le filet, sans grande conviction, perplexe, sur le dos de Jésus. Allez, on jette le filet, sur ta parole. Et puis Pierre regarde Jésus sur son cou, hein, tu vas voir, il n'y aura rien. Puis il tire à un moment donné, ça se tend. Il tire. Alors il regarde vers Jésus. Jésus ne bouge pas. Il tire et puis il n'arrive pas. Il dit à celui qui est avec lui dans la barque, tire avec moi. Il n'y arrive pas. Puis ça devient trop lourd. Ils font venir l'autre barque. Ils tirent. Les deux barques sont remplies de poissons. Et là, j'imagine, là c'est la joie. C'est l'excitation. Super, le programme change. Le scénario catastrophe est fini. Ce soir, on va manger du poisson. Ce soir, ça change. Il y a de la joie. Et puis Pierre croise le regard de Jésus. Ce n'est pas un regard de joie. « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » C'est-à-dire qu'il se sent mal à l'aise. Justement parce que ça a bougonné dans sa tête. Parce que ça a murmuré dans sa tête. Parce qu'il n'était pas en phase et il n'avait pas compris ce que Jésus voulait faire. Et il se sent indigne par rapport à tout ce qui a bouillonné dans son cœur. Et Jésus savait, il pourvoyait à ses besoins. Et cette pêche, finalement, qui le place devant la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, et en même temps, ça fait ressortir son indignité. Et elle dira, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Il sent son indignité. Je me dis, parce que des fois, nous, on idéalise un petit peu, mais combien de Jésus, il a guéri de bougonneux, de murmurants, je ne sais pas, j'invente les mots, mais des gens qui... Je me mets à la place des quatre personnes qui ont porté le paralytique. Nous, on les imagine plein de fois, mais peut-être qu'il y en a un ou deux. Bon, ça ne va pas marcher, il y a du monde, allez, on laisse tomber. Hein, des fois, on les imagine, on les idéalise un petit peu. Mais peut-être qu'il y en a deux ou trois qui ont murmuré sur les cinq. Je place le monsieur qui était dessus aussi. Hein, pour que, il y en a peut-être un qui était déterminé, mais les autres. Jésus a fait grâce. Hein. Il l'a guéri. Quand 10 lépreux sont venus vers Jésus, Jésus leur a dit, enfin ils sont venus, ils ont supplié Jésus, allez vous montrer au sacrificateur. Alors on ne sait pas où est-ce qu'ils étaient, mais je me mets sur le chemin. Il ne s'est pas foulé quoi, ils sont 10. Mais comment ils le vivent? Et il a fallu un certain temps pour qu'ils constatent la guérison. Et forcément là après on est confondu entre le murmure et le intérieur et la grâce que Dieu accorde. Je pousse un peu, hein, mais cet homme qui était aveugle de naissance, et Jésus va toucher ses yeux, lui mettre de la boue, lui mettre une couche supplémentaire, et il va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé. Je me mets à la place de cet homme, toutes les questions qui peuvent le traverser. Ah, nous, on pense toujours que ça a été... On connaît la nature humaine. On a tendance, des fois, à idéaliser un petit peu les personnes qui ont été guéries. Hein. Mais certains ont été guéris après avoir murmuré, après avoir bougonné. Et finalement, la grâce que Dieu leur a accordée faisait un petit peu plus ressortir leur état de cœur. Et c'est ce que ressent Pierre. Il dit, mais retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Ah, il a murmuré, il a bougonné dans son cœur, c'était... Et finalement, ça fait ressortir son besoin de la grâce de Dieu. J'ai un souvenir qui m'a marqué il y a quelques années. On a dû aller prier pour une personne et elle venait plus à l'église, cette personne. Et rapidement, quand on s'est vu, je lui ai parlé, il faudra revenir au Seigneur, revenir à l'église. J'étais jeune pasteur, hein, maladroit. Pas question que je revienne à l'église. Hein. Ça, c'était... Et dans mon cœur, je me suis dit, comment tu veux que le Seigneur te guérisse? J'ai prié quand même. Mais on n'était pas sorti de l'hôpital qu'elle était guérie. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que... Mais on ne perd pas de vue que ce sont des grâces. Par contre, elle, par la suite, elle est revenue. Parce que ça a cheminé dans le cœur. Et les guérisons divines, les grâces de Dieu sont pas des récompenses, comme je disais ce matin, mais sont bien souvent des appels à la repentance, des invitations à se remettre en cause. Et quand Dieu nous bénit, je me mets à la place de Malchus. Malchus, vous le connaissez, c'est celui qui est venu arrêter Jésus. Et Pierre va sortir une épée, il va taper comme... il va prendre l'oreille. Jésus va, hop, reprendre l'oreille, lui coller, c'est guéri, c'est fini. Moi, je me place à la place de cet homme, hein. Comment il l'a vécu après? Est-ce qu'il est resté avec les autres ou ça m'interpelle? On n'a pas la suite. Mais quand même, ça m'interpelle. Ce miracle, en tous les cas, il a bouleversé Pierre dans son cœur intérieur. Il a pris conscience du péché, un peu plus. Au point qu'il dit, je suis un homme pécheur. Et puis, bien sûr, ce miracle, il est important, il a bouleversé Pierre parce qu'il a pris conscience un peu plus de qui était Jésus. Quand Jésus leur demande d'avancer en pleine eau, Pierre répond en l'appelant maître. Ça veut dire il se place dans une position de subordonné. Ce n'est pas le mot rabbi, hein. C'est un autre mot. Il se place dans une position d'exécutant. Mais une fois qu'il aura lancé le filet, que la pêche miraculeuse sera là, Pierre va l'appeler autrement. Il va l'appeler Kyrios, Seigneur. Et ce, c'est un mot fort, un mot qui élève toujours les personnes, qui les place au-dessus. Le Seigneur, c'est celui qui possède. Alors c'était parfois attribué à un haut responsable, mais c'est aussi attribué à Jésus. Et quand c'est à Jésus, c'est pour mettre en évidence qu'il est celui qui possède tout, celui qui détient tout, c'est le Seigneur. Et il l'élève. Pierre vient d'élever Jésus. Il prend conscience de qui est Jésus par le miracle qu'il a fait. Par le fait qu'il connaissait son cœur, il sondait son cœur, parce que si je reviens sur cette pêche miraculeuse, quand il a croisé le regard de Jésus, là il a, avec Jésus il y avait un regard, ça suffisait pour qu'on comprenne pas mal de choses. Et il a pris conscience de qui était Jésus. Ce que Pierre dira montre quand même qu'il avait encore besoin de mieux connaître Jésus. Elle dira, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Par la suite, il n'aurait pas parlé comme ça. Il dira, Seigneur, je viens à toi parce que je suis un homme pécheur. Hein, ce n'est pas la bonne prière. Il ne s'agit pas de dire, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Mais il s'agit de faire cette prière, Seigneur, je suis un homme pécheur. Je suis mauvais. J'ai fait du mal. Je suis marqué par l'égoïsme. Je suis marqué par l'orgueil. J'ai fait du mal partout. Je m'en suis fait à moi-même. Et j'ai besoin de ta grâce. Je viens à toi. Je me tourne vers toi. Et la Bible nous invite et elle nous montre où est-ce qu'il faut regarder. Parce que Jésus a donné sa vie sur la croix. La Bible nous invite à regarder à Jésus qui a été mort, crucifié sur la croix et ressuscité. Mais c'est important de prendre conscience qu'il est Seigneur. Beaucoup de gens sont venus dans nos réunions et ont pris conscience que le Seigneur était là, qu'il est présent. Et que Jésus est le Seigneur. Un jeune qui était venu dans une église évangélique, il avait entendu parler du Seigneur, et puis, hop, ça fait comme une vague, il s'est approché, puis il est reparti, puis alors, après il s'est lancé dans toutes sortes de religions ancestrales et de choses comme ça. Et puis un jour, on lui a parlé du Seigneur à nouveau. Et on lui a cité ce verset, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux, toutes choses vous seront données par-dessus tout. On lui a donné ce verset, et quand il est arrivé à l'église de Vienne pour la première fois, prédication un culte, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes choses. Et là, il a pris conscience que le Seigneur était là. Il a pris conscience et tout s'est dévoilé dans son cœur. Les choses se sont vite posées. Il a pris conscience que Jésus est Seigneur. Et il a donné son cœur au Seigneur et on a eu la joie de le baptiser. Jésus, c'est le Seigneur et c'est en même temps le Sauveur. Pierre réalisera aussi, bien sûr, qu'il est le Sauveur. Voilà, je crois que ce miracle nous fait comprendre finalement ce que Pierre a découvert. Qu'est-ce qu'on découvre dans ce miracle ? On découvre un Dieu qui s'intéresse à nos vies et qui peut nous aider dans tous les domaines. Même celui où vous pensez que vous n'avez pas besoin de lui, il est celui qui peut vous aider. Il est celui qui bénit. Il est celui qui sauve. Il est celui qui pardonne ceux qui ne le méritent pas. Et d'abord cela. Tant que vous pensez mériter quelque chose, quelque part ça fait barrage. Mais quand on réalise qu'on ne mérite rien et qu'on est un pécheur et qu'on a besoin de la grâce de Dieu, c'est là où le Seigneur peut agir. Il est celui qui doit être reconnu tel qu'il est. Et ça, c'est très important. Pour que la foi devienne véritablement la foi, il faut donner à Jésus la place qui lui revient. Jésus, il doit être le Sauveur, celui qui a donné sa vie sur la croix, celui qui s'est offert pour nos péchés. Et en même temps, il faut prendre conscience qu'il est le Seigneur, celui qui est au-dessus, le Dieu fait homme et le Dieu qui veut régner dans notre cœur. Et quand on lui donne cette place-là, alors il se passe quelque chose dans notre cœur. La nouvelle essence, il y a un changement qui se fait dans notre cœur et la grâce est en train d'agir. Voilà ce que Jésus veut faire dans votre cœur et dans votre vie. Il est celui qui veut remettre le Sauveur, le Seigneur, celui qui peut répondre à vos besoins. Il est celui qui veut exercer la grâce. On va courber nos têtes et on va prier maintenant.